Bienvenue sur Parents du Multiple, le podcast des parents de jumeaux, triplés ou plus. Je m'appelle Marion, je suis maman de jumeaux et coach parental. Si tu es parent ou futur parent du multiple, alors tu es au bon endroit. Ici, les parents partagent leur expérience de la grossesse à l'adolescence de leur multiple, ainsi que leurs astuces pratiques avec bonne humeur et bienveillance. Tu peux retrouver plus d'informations et tous les épisodes gratuitement sur le site parentsdumultiple.com. Dans cet épisode, je reçois Astrid qui a 37 ans, habite dans la Drôme et travaille pour une ONG. Astrid a un enfant de 4 ans et des jumeaux de 1 an. Avec elle, nous allons parler de la dépression postpartum. Mais avant de commencer l'épisode, je voudrais partager avec vous un super code promo à valoir sur le site jumeauxshop.com. Avec le code multiple 10, vous pouvez avoir 10% de réduction sur l'ensemble de la boutique web spécialisée dans l'équipement de naissance pour les jumeaux, triplés ou plus. Bonjour Astrid.
Bonjour Marion.
Comment vas-tu?
Ça va, merci.
Ben moi, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur l'épisode pour parler d'un sujet très sérieux et qu'on commence à entendre parler de plus en plus, c'est la dépression postpartum. Mais avant de commencer de parler de ce sujet, on va commencer par les questions des parents de multiples. Est-ce que tu es prête?
Tout à fait.
Alors, question numéro 1. L'annonce de la grossesse multiple, pour toi, c'était un coup de joie ou un coup de flip ?
C'était un énorme coup de flip. C'était une grossesse qui était spontanée et désirée, qui arrivait un petit peu plus tôt que prévu. Mais comme tout se passait bien, en fait, j'ai pas eu spécialement de contrôle médical avant la première écho des 3 mois. Donc, on s'est présenté avec mon conjoint. On a déjà une fille aînée. Donc, voilà, on avait le souvenir que cette première écho est assez magique puisque c'est la première fois qu'on voit son tout petit bébé. Et là, gros choc, on regarde l'écran et comme on avait déjà l'expérience, tout de suite, on voit bien qu'il y a 2 bébés. Et donc, mon homme se liquéfie, moi, je fonds en larmes derrière le masque et je crois que je sais même pas si c'est des larmes de joie, de tristesse, tous les sentiments se mélangent. Et là, vraiment, on va commencer ouais, une longue phase d'acceptation, en fait. Le ciel nous tombe sur la tête, on n'avait jamais envisagé cette possibilité d'avoir des jumeaux ou jumelles, quoi.
Et le ciel vous tombe sur la tête, mais ça, on va en parler un peu plus tard, après les questions. Je passe avec ma deuxième question. La phrase qui tue que l'on t'a dite et qui t'a marqué, énervé ou fait rire, mais en tout cas, tu t'en souviens.
Il y en a plusieurs, mais je crois que celle vraiment qui a été difficile et qui fait écho hein, au sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est les gens que je croise, que je ne connais pas forcément, dans les commerces, dans la rue, qui te disent « Oh, profitez-en, ça passe tellement vite !» Alors que moi, mes journées, elles me semblaient interminables. Et quand on est en tête-à-tête avec 2 petits bébés, parfois, en fait, les minutes peuvent vous sembler des heures. Donc voilà, cette difficulté à être en phase avec ce qu'on représente, avec ces 2 magnifiques enfants et ce qu'on vit à l'intérieur et chez soi, quoi.
Et c'est très culpabilisant au final parce que tu te dis « Ah bah oui, il faudrait que je profite, mais j'y arrive pas parce que profiter de quoi ?» Et du coup, c'est quand même… Ouais, c'est vrai que cette phrase, elle revient souvent. On dit « Ah, il faut profiter des premières années. » Moi, je me souviens des périodes où on me disait « Ah, il faut profiter à cet âge, c'est mignon. » Et je me disais « Mais c'est mignon de quoi, en fait ?»
De quoi on parle de la même chose, ouais, vraiment.
Et en fait, du coup, tu culpabilises un peu de te dire « Merde, est-ce que je suis pas en train de passer à côté de quelque chose ?» Mais d'un autre côté, moi, j'arrive pas à voir ce truc super sympa que tout le monde veut.
C'est ça.
Du coup, ton meilleur cadeau de naissance ou que tu t'es acheté ou que t'as pas reçu, que tu t'es pas acheté, mais que tu te dis « purée, c'est ça que j'aurais dû avoir au début, ça m'aurait bien aidé ».
C'est une collègue amie qui avait eu des jumeaux qui m'avait fait cette suggestion et du coup, on l'avait noté sur notre liste de naissance, c'était le fait d'avoir des casques anti-bruit. Ça a fait beaucoup sourire les amis quand ils ont vu ça sur notre liste et du coup, ils se sont un peu battus pour qui allait nous les offrir. Et franchement, je crois que ça a été l'objet qui a sauvé… nos jours, nos nuits, les premiers mois, ça peut être tellement intense, 2 petits bébés qui pleurent. Et en fait, ce casque, ça va juste aider à prendre la distance nécessaire pour pouvoir, quelque part, tenir soit un peu plus longtemps, soit arriver à être moins vite énervé, en fait, parce que tu auras moins les aigus. Et du coup, ouais, clairement, pour nous, c'est quelque chose qu'on n'utilise quasiment plus aujourd'hui qu'elles ont 1 an. Mais voilà, dans les premiers mois, c'était vraiment l'objet très, très utile.
Du coup, casque anti-bruit de chantier, quoi.
Ouais, ah ouais, vraiment, que tu achètes dans les magasins de bricolage.
Non, mais on rigole, mais moi, j'avais pareil. Et j'avais vu un reportage, je crois que c'était sur les bébés secoués. Et gros, ils disaient, OK, c'est une fois que vous savez que votre bébé, il pleure, ça sert à rien d'entendre les pleurs parce que ça vous énerve. Du coup, moi aussi, j'avais acheté un casque de chantier et je me souviens, pour certains pleurs du soir qui pouvaient durer super longtemps, boule qui est plus casque de chantier,
c'est
là, OK, je sais que t'as un problème, donc je m'occupe de toi, mais j'ai pas un besoin d'entendre ce bruit énervant, quoi.
Et ça n'empêche pas la connexion à l'enfant, et je dirais même que ça te donne plus de patience, et tu es plus présent parce que tu n'es pas agacé, énervé par ce bruit que tu ne peux de toute façon pas cesser.
Non, mais très bon cadeau, je suis d'accord, j'avais la même chose. Et on s'en est servi pas mal aussi au début. Dernière question, si tu voulais dire qu'une seule phrase aux futurs parents de multiples, ça serait quoi?
Ouais, pareil, c'est aussi un conseil que m'avaient partagé des parents de jumeaux, c'était entourez-vous, vraiment. Ne refusez jamais un coup de main, ne refusez jamais de l'aide, et ça dans la durée en fait. Et alors, on n'a pas tous la chance d'avoir les grands-parents à côté, la famille, mais c'est pas grave en fait. Ce cercle-là, vous pouvez le créer aussi, et ça peut être du coup d'autres parents d'élèves si vous avez déjà un enfant plus âgé, ça peut être les voisins, les amis. Moi, j'ai tissé énormément de liens avec mes voisins la première année de vie de mes filles, avec ça va être les TISF parce que vous allez faire demander de l'aide pour que quelqu'un vienne chez vous faire le ménage, faire la cuisine, mais du coup, voilà, ne pas s'isoler, surtout ne pas s'isoler et demander de l'aide, dans le sens où parfois on a le sentiment que c'est montrer un signe de faiblesse, ça peut être aussi ce qu'on nous renvoie. Non, en fait, c'est super chouette d'avoir des amis qui vous livrent un petit plat qui est tout prêt. Et oui, bien sûr, vous auriez été capable de le cuisiner, sauf que là, vous n'aurez pas le temps, pas l'énergie. Et franchement, des copains qui ont fait ça dans la durée, c'était vraiment précieux, quoi, d'avoir quelque part de se sentir aussi entouré, et ça fait chaud au cœur, on en a besoin aussi en fait humainement, je pense, de se dire voilà, je traverse quelque chose qui est difficile, mais je suis pas seule en fait, j'ai tout un réseau, tout un village autour de moi. Et on dit souvent cette phrase que pour élever un enfant il faut tout un village, alors imaginez pour des jumeaux, je crois qu'il faudrait une mégalopole.
Et pour rebondir sur ce que tu dis, j'avais lu une étude sur justement la dépression postpartum, et ils avaient fait une étude dans plusieurs pays, et ils disaient qu'en fait les pays avec le taux le plus élevé de dépression postpartum, c'était les pays individualistes, donc en gros les pays occidentaux développés comme chez nous, où les familles ne vivent plus ensemble, où on connaît plus personne dans la ville où on habite puisqu'on a déménagé 10 fois. Et en fait les gens n'ont pas ce soutien là, et c'était ces pays là qui avaient le plus le taux de dépression postpartum le plus élevé. Et pour rebondir aussi ce que tu disais sur l'aide, il existe aussi des associations qui peuvent aider les parents. Je pense par exemple à Super Maman France, il me semble que ça s'appelle, où c'est des mamans volontaires qui s'inscrivent et ils sont là pour venir faire un thé, apporter un petit plat chaud, etc. Donc pas hésiter à leur demander. Et aussi pour créer du lien, il y a aussi l'association qui me vient en tête, c'est le Club Poussette. C'est des rencontres dans toutes les villes de France entre mamans en postpartum. Et ça peut être sympa de trouver un soutien psychologique, peut-être se faire des copines, c'est très utile d'être entourée au début.
Les professionnels de santé, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais moi j'avais eu la chance d'être super bien accompagnée par des sages-femmes, un réseau très précieux. Il y a les doulas, et après en fait on a aussi eu la chance d'avoir une sage-femme en fait qui a été très présente à nos côtés dans la durée, et d'avoir quelqu'un qui est bienveillant mais en même temps qui est très compétent, qui sait s'occuper du bébé et de la maman, c'était quelque chose de vraiment une aide privilégiée.
Bon, on vous donne plein de pistes là pour vous entourer et recréer votre village, donc très important. Merci Astrid. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'épisode qui est le sujet du jour. Et comme je le disais au début, le sujet du jour, c'est la dépression postpartum. Donc Astrid, je te laisse nous raconter ton histoire.
Ouais, je crois que je voulais juste vous partager un peu, puisqu'on ne se connaît pas vraiment. Oui.
Ah.
Pardon, désolée. Je disais que je crois que ce qui était important de vous partager, c'est un petit peu sur ma personnalité, à savoir que moi, je suis quelqu'un de super dynamique, très optimiste. J'avais jamais fait de dépression avant de ma vie. Et mon premier postpartum, donc j'ai une fille aînée qui a 3 ans d'écart avec ses petites sœurs, ça s'était super bien passé. Donc, j'étais vraiment confiante, en fait, avec l'arrivée de ces deux bébés, très consciente, évidemment, de la charge logistique qui allait s'imposer à moi. Mais j'ai vécu une super grossesse, un très bel accouchement à terme avec deux bébés qui étaient en super santé. On est rentré à la maison assez rapidement, donc franchement, tous les signaux étaient plutôt au vert. J'ai tissé un lien avec mes filles assez spontané, je les ai allaitées, enfin, franchement, ça se passait plutôt bien. Donc, je n'avais pas de raison particulière, en fait, à ce que ça se complique. Et puis, en fait, voilà, c'est quelque chose d'assez insidieux, quoi, qui s'installe tout doucement. Il y a déjà les premiers réflexes qu'on vit toutes les premiers mois à l'arrivée de notre bébé, qui va être ces syndromes d'hypervigilance, où on va être vraiment à l'affût. Et ça, quelque part, bah, c'est pour la survie de l'espèce, hein. C'est comme ça, on est des mammifères. On est programmés pour répondre aux pleurs de nos bébés, à leurs besoins. Et sauf que normalement, ça, c'est vraiment une modification du cerveau qui se fait à la naissance du bébé. Mais petit à petit, ça doit s'estomper normalement, en fait. Vous allez arriver à prendre de la distance et votre cerveau va évoluer. Et clairement, moi, ça ne s'est pas passé comme ça, en fait. J'ai gardé vraiment cette hypervigilance. Et puis, voilà, en fait, aujourd'hui, je suis capable de l'analyser parce que j'ai pu prendre du recul. Mais c'est vrai que quand j'étais dedans, en fait, j'étais absolument incapable de me rendre compte de ce qui m'arrivait.
Juste pour rebondir sur ce que tu disais au début, donc tu as dit que l'annonce de la grossesse, ça a été un gros choc, mais tu n'as pas ressenti cet état de dépression, parce qu'on parle de dépression postpartum, oui. Mais ça peut aussi commencer avant. Oui. Tu ne l'as pas ressenti, toi, pendant la grossesse?
Non, pas du
c'est
tout.
Vraiment non, après... non, non, non. Après ouais. La grossesse, une fois que la fatigue, j'entends, a commencé oui. à s'installer, quoi.
Tout à fait. Ouais, mes filles sont nées à l'automne, à la Toussaint. Donc, c'est vrai que c'est une période où déjà, on manque de lumière, il fait froid, on est plus chacun chez nous. Mon conjoint, il a repris le travail dès le mois de janvier. Et du coup, voilà, à partir du mois de janvier, je me suis retrouvée toute seule avec mes bébés. Et c'est là, en fait, qu'il y a eu une lente descente de perte de sens, quoi, dans ce que je vivais. Et c'est vrai que c'est pas forcément mon entourage qui s'en est rendu compte, parce qu'en fait, on vit tellement des nuits hachées, une sursollicitation la journée avec voilà ces petits bébés qui ont besoin de nous sans cesse, ma fille aînée aussi qui est encore en bas âge donc qui nous sollicite beaucoup quand elle est là à la maison, donc même si les filles peuvent se coucher tôt, les petites, il y aura toujours la grande sœur qui sera encore là, donc en fait ça fait des journées sans fin et oui, une fatigue qui est omniprésente.
Et comment ça s'est matérialisé pour toi? Parce que j'imagine que, ok, t'es là avec tes deux petites à t'en occuper toute seule, plus ta grande, t'es fatiguée, t'es peut-être pas, tu te lèves le matin, t'as peut-être pas envie, mais tu te dis peut-être aussi, je sais pas, un truc du genre, bah ouais, ils sont petits, je suis fatiguée, tout le monde est fatigué, c'est normal. À quel moment tu te dis, ok, là non, c'est pas normal?
Moi, je me le suis pas dit en fait. C'est le médecin généraliste qui suivait les filles qui s'en est rendu compte bien avant moi, puisque j'avais les rendez-vous de suivi obligatoires des bébés la première année. Donc c'est vrai qu'elle me voyait assez régulièrement pour le suivi des filles, et chaque fois, elle prenait le temps de me poser la question. Et vous, comment ça va? Du coup, je parlais un petit peu de mon quotidien et je fondais en larmes en fait à chaque fois que j'avais ces rendez-vous là. Donc elle a commencé à mettre le doigt dessus, je dirais au printemps. Je pense qu'elle a commencé à s'en rendre compte. Je me plaignais de douleurs de la nuque, les épaules, et que j'associais beaucoup à l'allaitement nocturne. Je trouvais que c'était compliqué, que j'étais tout le temps... voilà, ça devenait pénible pour moi. Du coup, elle a commencé à me proposer de faire des séances de balnéothérapie en se disant ça me fera une demi-heure où je vais m'aérer, où je me ferai du bien au corps. Et donc, on a mis ça en place au printemps, et en fait, je voyais bien que ça changeait rien du tout. J'étais toujours... toujours très en colère, en fait. J'étais agressive, en colère. J'étais très susceptible aux pleurs, mais vraiment une extrême susceptibilité. En fait, ça me faisait comme une boule dans la gorge, ça montait dans mon cerveau et ça devenait insupportable, en fait. Et je m'en suis rendu compte que c'était même pas seulement les pleurs de mes enfants, ça pouvait être les pleurs d'un autre bébé au parc qui me déclenchait, en fait, ces mêmes symptômes. Où les larmes me montaient tellement ça devenait insoutenable. Donc ça, c'est des petites choses qui m'ont un peu... alerté, on va dire. Mon sommeil qui était pas du tout réparateur, puisque même si on est fatigué, normalement, quand on dort, on a quand même cette sensation après d'un peu de repos. Moi, j'arrivais jamais à me détendre complètement. J'entendais mes filles, en fait, même quand elles étaient en balade, en poussette avec quelqu'un d'autre. J'étais censée me reposer, faire la sieste. Je n'arrivais pas à me détendre, en fait. Je les entendais, j'avais des hallucinations auditives, quoi.
Et du coup, ils ont quel âge tes jumeaux à ce moment-là où vraiment le médecin met le doigt dessus et tu te dis, ok, j'ai plus de patience, ça va pas, quoi.
Elles ont 6 mois et ça dure jusqu'à 6-9 mois. Et en fait, elles commencent à mettre le mot de la dépression du postpartum. Et donc, juste quand elle le nomme, je fonds en larmes parce qu'en fait, j'ai le sentiment d'être quelqu'un d'hyper informé. Je participe à des cercles de maman, je vais à la MJC, participer à des ateliers. J'écoute plein de podcasts parce que j'ai fait énormément d'heures de poussette avec mes filles. Donc, j'ai vraiment l'impression de savoir exactement de quoi il s'agit. Et que
ça ne devait pas t'arriver à toi.
Ça ne me concerne pas, clairement. J'ai tout mis en place pour que ça n'arrive pas. Je ne peux pas être cette personne, quoi. Donc, énorme sentiment de culpabilité. Je le rejette, en fait, ce diagnostic. Et après, elle est assez douce. Donc, elle me propose de... Chaque fois, elle me donne un peu de temps en disant ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est que le mois prochain, on se voie pour vous, pas pour vos enfants, et qu'on fasse un test, en fait. Parce qu'il existe des tests qui permettent vraiment, de quelque part, de formaliser ce diagnostic, quoi, que ça soit pas juste sur du ressenti.
Et donc on fait aussi juste pour dire en ligne,
oui, c'est vrai.
La personne qui a fait beaucoup de travaux sur la dépression postpartum, c'est Isabelle Roskam, et elle a un site internet, je saurais pas vous dire exactement, mais si vous tapez dépression du postpartum, c'est un des premiers qui sort, et elle a un test, une espèce de quiz qu'on peut faire pour voir si on est concerné ou pas.
Ouais, c'est vrai. Et oui, il y a différentes formes de tests. Là, j'avoue que je me suis laissée guider par le médecin. Et bon, le diagnostic était sans appel, hein. Je cochais toutes les cases. Un autre symptôme, peut-être que je vous ai pas partagé parce que c'est plus difficile d'en parler, mais je crois que c'est bien de le nommer. J'avais beaucoup d'idées noires, en fait, et qui ne concernaient pas mes enfants. Ça, je crois que ça dépend des personnes. Moi, je voulais mourir pour que ça s'arrête, en fait. Donc, et je l'ai verbalisé une ou deux fois à mes proches. Et ces idées noires, en fait, elles ont pris de plus en plus de place dans ma vie, en fait, en disant, ça me devenait tellement insupportable ce quotidien, tellement douloureux que voilà, la seule issue qui me semblait possible, c'était que ça s'arrête, quoi, tout simplement.
Et est-ce que du coup tes proches, ils ont entendu ce message là ou est-ce qu'ils étaient plutôt en mode oh, t'es fatiguée, ça va passer?
Ouais, c'est pas facile, hein, d'entendre quelqu'un qu'on aime qui vous dit qu'il va tellement mal qu'il a envie de mourir. Non, je crois que c'était pas possible pour eux de l'entendre, et il y avait vraiment ce sentiment de ça va passer. Et puis surtout, en fait, une des explications simples, c'était de dire c'est parce que tu n'as pas de mode de garde, c'est parce que tu es obligée de rester à la maison avec tes filles, alors que ça n'était pas mon souhait initial. Mais en fait, je n'avais pas de solution avant le mois de septembre. Mes filles étant nées en octobre, ça faisait une petite année à devoir rester à m'occuper d'elles. Et donc, il y avait vraiment cette idée de ça ira mieux dès qu'elles seront gardées, ça va aller. Sauf qu'en fait, c'est faux, ça n'a rien changé, en fait. Même une fois que j'ai eu des relais une après-midi par semaine, deux après-midi par semaine, je continuais de m'enfoncer, quoi.
Et en plus, comme tu disais, vu de l'extérieur, c'est difficile aussi parce qu'on se dit elle a tout ce qu'elle veut pour être heureuse. Elle a ses enfants qui sont en bonne santé. Tu disais que tu étais plutôt quelqu'un de dynamique, de positif,
oui,
etc. Donc en fait, de l'extérieur, c'est difficile probablement de voir en se disant c'est quoi le problème? Il n'y a pas vraiment de problème. Elle a tout pour être heureuse. Et il y a aussi ce truc de on ne sait pas quoi répondre quand quelqu'un nous dit ça.
Tout à fait.
On a envie de un peu dire ça va aller, tu t'exagères, en fait. Et on n'est pas vraiment formé pour aussi comprendre. Et une fois, j'avais fait une formation sur ce genre de truc et ils disaient, en fait, parfois, les gens ont juste pas besoin qu'on leur donne ni de solution.
Surtout pas.
Ouais, voilà. Donc là, par exemple, quand tu disais ça va pas, on te disait sa solution, c'est en gros de les mettre à la crèche ou je ne sais quoi, de les faire garder. Les gens n'ont pas envie qu'on leur donne de solution, ils ont juste envie qu'on les écoute.
Ouais.
Et c'est vrai que le commun des mortels, entre guillemets, n'est pas forcément formé à ce genre de technique. Donc toi, tu recevais pas le message que t'avais juste envie
sûr,
qu'on t'écoute.
Oui, et je crois qu'il faut aussi entendre que la dépression du postpartum, c'est pas une dépression comme les autres. On n'est pas à se morfondre dans son canapé et complètement inactive, pas du tout.
On peut pas.
On a deux bébés à s'occuper, donc on est hyper active. Et je sortais tout le temps. En plus, c'était le printemps, donc moi, j'étais tout le temps en train de me balader à vélo en poussette. Donc tu dis, elle va super bien, elle fait plein de choses avec ses filles, quoi. Alors qu'en fait, à l'intérieur, j'étais complètement éteinte. Mais oui. Après, la personne qui le voit le mieux, c'est votre conjoint, parce qu'en fait il vous a connu avant et c'est super dur, en fait, pour lui aussi de me le dire. Il a pu me le dire après, en fait, une fois que j'allais mieux, une fois que j'ai accepté de me soigner, en fait, tout simplement, parce que j'ai d'abord accepté un accompagnement psy, ça m'a aidée, ça n'a pas été suffisant, j'avais encore des idées noires, et du coup à un moment le médecin m'a proposé de passer un traitement médicamenteux, je l'ai refusé pendant plusieurs mois, et puis à un moment c'est allé tellement loin, en fait, que je me suis dit c'est la bonne solution, il faut que je le fasse. C'était très difficile, encore une fois, à accepter. Et après, ça a été une renaissance, en fait, de voir que bah oui, je redevenais moi-même, j'étais à nouveau capable de maîtriser mes émotions, j'étais plus en train de pleurer chaque jour, je retrouvais de l'empathie pour les autres, je retrouvais de la bienveillance avec ma fille aînée, enfin je redevenais moi-même quoi.
Donc le jour et la nuit quoi.
Ouais, et là j'ai pu nommer tous ces symptômes en fait, qui m'habitaient depuis des mois, mais qui étaient devenus tellement une partie de moi-même que je n'arrivais plus du tout à faire la part des choses.
Et je trouve que c'est très clair la façon dont tu l'expliques, parce qu'il y a les principaux symptômes, entre guillemets, de la dépression postpartum, si les gens qui nous écoutent ne sont pas au courant, il y a cette idée de changer, on n'est plus la même personne. Avant, on se comportait d'une manière A, et maintenant, on se comporte d'une manière B. Il y a la perte de plaisir dans les relations familiales, par exemple, il va y avoir des gens qui préfèrent rester au travail ou rester garés sur le parking de chez eux dans leur voiture plutôt que de rentrer chez eux. En fait, il y a cette idée de on se reconnaît plus vraiment parce qu'on a changé la manière de faire. Et comme tu dis, ton conjoint a pu te dire que t'es plus la même personne que je connais. Il y a peut-être aussi un problème de ce niveau-là. Donc, toi, ce qui t'a aidé, c'est un suivi psychologique et donc un traitement médicamenteux.
Ouais.
Est-ce que maintenant que t'y repenses, alors je ne sais pas si on peut éviter, on aurait pu éviter cette dépression-là pour toi, mais maintenant que tu repenses à cette période-là, donc t'as dit que ça a commencé vers 6 mois, ça a fini à peu près vers quel âge ils avaient tes jumeaux?
Je pense pas que ça soit fini, honnêtement. Je pense que je suis encore très fragile et j'ai encore plein de choses en fait qui quelque part rythment mon quotidien pour m'aider à garder à la fois des respirations. Donc c'est des activités que je fais moi seule, donc aller au pilates, je fais du cirque avec ma fille aînée, j'essaye aussi de faire un moment sympa que je partage avec une copine une fois par semaine. Donc c'est compliqué en soirée, alors du coup j'essaie que ça soit manger un midi. J'essaye aussi de prévoir de faire un massage tous les 3 mois, quelque chose comme ça. Aussi très vigilante sur les moments partagés à deux. On voit très bien que si on laisse passer plus d'un mois et demi sans avoir un moment à deux, mais des fois ça peut être juste aller marcher une demi-heure tous les deux sans enfant, et on a besoin aussi de se ressourcer en tant que couple. En fait, il y a plein de petites choses comme ça qui doivent rythmer mon quotidien. C'est un équilibre qui est encore super fragile. Je ne travaille qu'à mi-temps aujourd'hui. Là, l'idée, ça serait que je reprenne progressivement à 4-5. Après, je dirais quelque chose aussi qui a été super important pour moi dans l'acceptation, ça a été de comprendre qu'en fait, c'était pas moi, Astrid, qui avait été défaillante. En fait, c'est que j'évolue dans une société qui est une société patriarcale, et ça, on peut pas le nier. Et donc, en fait, c'est plein de choses qui font que je me suis retrouvée moi seule avec ces bébés. C'est le fait que mon conjoint, en fait, il avait que 32 jours de vacances de congé par paternité. Alors, on a beaucoup parlé de tout le travail qui a été fait pour allonger celui des parents d'enfants seuls. Donc, ça s'est allongé jusqu'à 25 jours. Par contre, la durée du congé des papas de jumeaux, il n'a pas bougé. Il est resté à 32 jours. Est-ce qu'on imagine vraiment qu'une maman peut se retrouver seule avec deux bébés au bout d'un petit mois? Je suis pas sûre, en fait, que ça soit possible. Les modes de garde aussi, en fait, le fait qu'il n'y ait aucune solution pour garder deux bébés parce que les assistantes maternelles, elles ont des agréments pour les enfants de moins de 12 mois qui sont moindres. Donc, elles ont très rarement, en fait, de places disponibles. Et souvent, c'est lié, en fait, à la rentrée scolaire. Donc, avoir des places en dehors du mois de septembre, c'est mission impossible. Et donc, j'ai eu cette chance incroyable d'avoir deux places dans la crèche de mon village. Mais là encore, je pense que c'est pas vraiment une chance, en fait. C'est parce que moi, c'est mon métier de faire du lobbying, du travail d'influence. Donc, depuis le mois de janvier, en fait, je suis en harcèlement de la personne en charge de la petite enfance à la communauté de communes. Mais parce que je suis informée, parce que j'ai ces réseaux-là. Donc, ce n'est pas non plus à la portée de tout le monde. Mais clairement, si je n'avais pas ces deux places en crèche, combien ça nous coûterait une somme incroyable, et je pense qu'on aurait peut-être remis en question le fait que je reprenne le travail. Et puis l'autre question aussi, c'est pourquoi est-ce que le congé parental est si peu rémunéré? Aujourd'hui en France, c'est 420 €. 420 euros pour rester à la maison, garder deux bébés. Quelle reconnaissance j'ai de la société, en fait? Aucune. Mon travail n'a aucune valeur.
Travailler 24 sur 24.
Voilà. Je gagne moins que le RSA. Je gagne moins que... Enfin, ça n'a aucun sens, en fait, de dire... on incite donc très fortement les femmes à reprendre le travail, mais il n'y a pas de mode de garde. Et en fait, voilà, comprendre tout ça, de se dire, ce n'est pas que moi en tant que personne, en fait. Je suis au cœur de ce système-là. Et là-dessus, ça m'a aussi fait du bien, en fait, d'entendre d'autres personnes, hein, qui parlait de burn-out parental, de burn-out patriarcal, et de se dire, oui, en fait, c'est parce que je suis une femme dans cette société-là qui est construite de cette manière, mais du coup, pouvoir me dire aussi, bah, ouais, j'ai besoin de me reconnecter en fait à bah, mes engagements féministes que j'avais avant. Et quand on devient mère, parfois, c'est pas facile en fait d'arriver à conjuguer tout ça. Mais là, du coup, ça m'a aussi permis de, bah, de me remobiliser, quoi, et de sentir que bah, j'ai une capacité d'action, alors qui est limitée. Hein, c'est clair, je vais pas réformer les politiques publiques, mais je pense que de pouvoir en parler autour de moi et pouvoir faire bloc aussi avec d'autres mamans. Enfin voilà, j'ai aussi cette perspective-là, moi, qui m'aide à me dire. Faire de la prévention, certes, c'est important, mais aussi de se dire, bah, malheureusement, ça risque d'arriver encore à plein d'autres mamans. Et les mamans de jumeaux, elles y sont beaucoup plus exposées, ça c'est statistique aussi. Donc je pense que ouais, y a encore beaucoup de travail à faire pour que notre société évolue, quoi.
Et je pense que, comme tu disais très justement, il y a deux espèces de niveaux, quoi. Il y a, ok, on aurait pu peut-être prévenir un petit peu avec tout ce qui est l'aide du village que tu as reconstitué toi avec tes voisins, qu'on peut reconstituer avec sa famille, des associations, etc. Mais il y a aussi, comme tu disais très justement, cette espèce de facette de tu t'es retrouvée dans ce rôle peut-être un peu coincé au final,
oui.
Que tu n'avais pas voulu, que tu n'avais peut-être pas anticipé. Et de notre côté, si t'aurais préféré retourner au travail plus tôt, en général, ça reste quand même les femmes qui vont se retrouver. Ok, j'ai mon travail, mais j'ai aussi ce job-là à temps plein qui est le job de la maison. Mm-hmm. Et c'est pas vraiment, j'en discutais avec des mamans il y a pas très longtemps, et c'est pas vraiment ce qu'on nous a vendu notre génération,
ouais.
Qui a la trentaine, voilà, 30-35 ans, où on nous a dit un petit peu, en gros, les filles peuvent faire tout comme les garçons.
Mm-hmm.
Et puis arrive ce jour.
De la maternité, où là, on redistribue les cartes.
Et c'est aussi ça, peut-être, qui fait que
ouais, c'est violent.
Certaines personnes ont du mal à l'accepter, quoi.
Ouais, c'est hyper violent. Et j'avoue que ça me mettait très en colère, en fait, le non-choix de ça m'est imposé. Et pourquoi est-ce que c'est moi qui reste plutôt que mon conjoint? Bah, parce que c'est lui qui a le salaire le plus élevé. Parce que, enfin voilà, plein de raisons comme ça qui font que, bah oui, en fait, c'est fléché depuis le début. Que oui, c'est moi qui vais rester à la maison parce que voilà, c'est dans mes gènes, hein, de prendre soin.
C'est comme et ça. Du coup, un petit peu comme tu disais au début avec ces personnes qui te disaient bah, profite, y a aussi une espèce de décalage avec peut-être la génération de nos parents à nous où les mères n'avaient pas, et alors nos mères peut-être travaillaient aussi, mais n'avaient peut-être pas été éduquées dans cette vision que les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent. Et du coup, oui, peut-être qu'elles ont plus profité de leur parentalité, de leur postpartum, etc., parce qu'elles n'avaient pas cette pression d'être en même temps retournées au travail, avoir cette charge-là. Enfin, du moins, si elles l'avaient, elles le savaient, c'était, voilà, c'était dans le contrat, quoi.
Ouais, c'était plus accepté. Ça, c'est
voilà.
Vrai. Ouais,
notre contrat à nous était un peu différent. C'est genre, ok, tu vas devenir mère, mais tu seras aussi une businesswoman. Et en fait, quand tu as signé le contrat, tu n'as pas lu les petits caractères en bas qui disaient, tu seras une businesswoman, mais tu courras partout parce que tu devras tout faire, etc. Donc, c'est vrai, je suis très d'accord avec le fait que il y a le côté, voilà, peut-être que si on essaye de vraiment s'entourer beaucoup au début, etc., on a peut-être moins de risques, entre guillemets, d'avoir une dépression postpartum, mais pas tant que ça, parce que
oui.
Pour être des personnes, enfin, moi, je me reconnais très bien dans ton discours, je suis aussi quelqu'un de super dynamique, d'assez positive, je fais tout le temps plein de trucs et tout, j'ai plein de projets, et pourtant, cette période-là, je m'en souviens pas comme une bonne période, parce que je me suis retrouvée bloquée à me dire, mais attends, ce rôle, je ne l'ai pas vraiment voulu, on me l'impose, en fait.
Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Et puis, je pense qu'on est aussi peut-être plus exigeante sur l'éducation qu'on veut donner à nos enfants, sur... ça se joue sur plein de détails, mais au quotidien, en fait, ça pèse. Et moi, je l'ai vu qu'il a fallu aussi que je déconstruise certaines choses, certaines attentes que j'avais. C'était possible avec un enfant de faire tous mes petits pots. Là, avec deux, ça devenait juste de l'esclavage, en fait. Du coup, voilà, accepter aussi que ça sera peut-être pas le même niveau de perfection que j'avais envisagé et l'ouverture que je veux leur donner. Et je me suis fait la remarque plein de fois de « Ah oui, avec mon aîné à cet âge-là, on lisait déjà des histoires. » Oui, bah là, en fait, techniquement, ça devenait juste trop compliqué, quoi. Je savais pas comment m'y prendre pour lire l'histoire à deux petits bébés en même temps. Je n'y arrivais pas, donc... Voilà, je crois que c'est aussi quelque chose que j'ai appris parce que j'avais une aînée. Peut-être quand on en a que deux, finalement, on se pose pas ces questions. On fait forcément avec deux. Mais bon, ouais, je pense que des deux côtés, ça peut être source d'apprentissage. Hein, mais...
Du coup, dernière question avant de clôturer l'épisode. Est-ce que là, maintenant, que si tu regardes cette période-là de ta vie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment ou que tu te dis, ok, si j'avais su, voilà ce que j'aurais fait peut-être pour prévenir un peu plus cette dépression du postpartum.
C'est difficile parce que j'ai vraiment l'impression de m'être débattue et d'avoir cherché des solutions sans cesse. Je crois que j'aurais peut-être... Ce que je regrette, en fait, c'est d'avoir mis si longtemps à accepter de prendre des médicaments parce que pour moi, c'était hyper stigmatisant. J'étais vraiment honteuse, en fait, à l'idée déjà de dire que... Enfin, je l'ai dit à très peu de gens, en fait. Hein. Là, je le dis sur un podcast, mais la plupart de mes amis ne le savent même pas parce que pour moi, c'était très difficile à admettre. J'avais peur que ça génère une addiction. J'avais peur... Enfin, voilà, ouais, vraiment, tous les effets secondaires que notre imaginaire peut développer avec la prise de médicaments. Et en fait, c'est vraiment dommage parce que ça m'aide, c'est une béquille en fait, c'est aussi comme ça que me l'a présenté le médecin, et c'est vrai, si j'avais une jambe cassée et un plâtre, je ne me déplacerais pas en clopinant, j'accepterais de prendre des béquilles. Mais là, c'est la même chose, sauf que c'est quelque chose de psychologique qui se voit pas, et aujourd'hui, ouais, j'ai besoin d'une béquille pour me déplacer encore, et dans quelques mois, ça sera plus le cas, je pourrais m'en séparer. Et donc vraiment, je crois que c'est l'éviter, je sais pas si c'est possible honnêtement. Par contre, accepter de l'aide, accepter de se soigner, l'appui psychologique aussi. Je crois que j'ai mis trop longtemps à le mettre en place parce que la maternité, ça réouvre aussi plein de choses dans nos histoires à chacune, le lien à notre mère, le lien à notre éducation qu'on a reçue. Donc voilà, se dire que c'est quand même un sacré tsunami qu'on vit avec l'arrivée d'un ou deux enfants. Et ouais, du coup, je crois que c'est ça, c'est de se dire, ça va être quelque chose de qui va me bouleverser. Et donc, prévoir et peut-être juste identifier des personnes ressources vers qui on pourra se tourner quand ça deviendra trop dur. Ou peut-être juste avoir cette discussion avec son conjoint avant, lui dire, il faut que toi, tu sois vigilant, en fait. Si tu sens que je change, si tu sens, moi, il me l'a dit, hein, que j'avais perdu ma légèreté, que j'avais perdu mon humour, ma joie de vivre, enfin des choses qui me caractérisent, ma personnalité. Et il l'avait vu, mais il n'osait pas me le dire parce que j'étais tellement agressive, il avait peur de se prendre.
Il avait peur de s'en prendre une.
Exactement. Et c'est sans doute ce qui se serait passé. Mais je pense que si on a eu la discussion en amont de dire, voilà, on se met d'accord quelque part sur un code rouge de là ça va plus, il faut que tu ailles consulter, il faut que tu en parles à quelqu'un d'autre, et voilà, si tu te l'es dit dans une phase de sérénité, peut-être que quand tu es au cœur de la tempête, tu l'accepteras mieux de sortir ce drapeau, quoi.
Et dans cette idée d'en parler avant, alors c'est vrai que bon, parfois on sait pas que ça existe, donc c'est difficile, oui, d'en parler avant, mais une fois j'avais écouté un podcast sur un papa qu'il me semble qui voulait pas d'enfant, et du coup il s'était posé avec sa compagne et ils avaient un peu décortiqué tous les aspects de la parentalité. Donc, par exemple, je sais pas, pour la diversification alimentaire, mm-hmm, on voit quoi. Et en gros, ils avaient un petit peu planifié, ce qui semble pas du tout sexy du tout, parce qu'on se dit, on va planifier, nanana. Mais en fait, super utile, parce que tu vois, en fait, si cette conversation, elle avait eu lieu avant, en disant, ok, il y a un risque de dépression postpartum, ça, c'est les symptômes. Si un jour, tu me vois faire ça, ou tu sens que ça change, dis-le-moi et on agit tout de suite. En fait, ça évite ça. De ouais. traîner sur la durée, que ça s'empire et que ça devienne difficile pour tout le monde, quoi.
Ouais, exactement. Ouais,
donc, il y a un vrai côté pas sexy à planifier, mais notre côté, quand on a des multiples, c'est plus facile de planifier.
Oui.
Et voilà, avoir certaines conversations, peut-être se renseigner un peu à l'avance, c'est super pratique. Et aussi, pour rebondir sur ce que tu disais sur les médicaments, j'avais lu une fois, mais je ne vais pas dire de chiffres parce que je ne veux pas dire de bêtises, une proportion, mais vraiment très élevée de Français qui prennent des antidépresseurs.
Oui.
Et du coup, merci beaucoup d'avoir témoigné aujourd'hui parce que, comme tu le dis si bien, si tu t'étais cassé le pied, tu aurais un plâtre et tu aurais des béquilles et tout le monde le verrait et t'en parlerait, alors tu t'es cassé le pied au ski, etc.
C'est ça.
Et là, en fait, personne n'en parle de plus en plus, mais ça commence juste maintenant.
Ça reste tabou.
Ça reste très tabou. Mais sauf que c'est aussi difficile, je pense, pour les personnes dans ton cas de ne pas pouvoir en parler. Parce que c'est un peu comme si tu ne pouvais pas non plus vraiment en parler, vu que c'est tabou.
C'est vrai. Merci
d'avoir raconté ton histoire aujourd'hui. J'espère qu'il pourra aider plein de futures mamans à se renseigner, avoir cette discussion en amont et accepter aussi l'aide des médecins, que ce soit psychologue, médicaments, etc. Le mot de la fin, Astrid.
Eh ben merci de m'avoir donné cette opportunité parce que ça me permet aussi de repartir la tête haute et en fait c'est le conseil d'une amie qui m'a dit quand tu en parles, regarde, tu baisses chaque fois la voix, il faut que tu arrêtes de baisser la voix, il faut que tu le dises à voix haute, arrête d'avoir honte et partage ce message là parce qu'il n'y a rien de honteux en fait et du coup voilà, je suis contente d'avoir eu cette opportunité, moi ça me permet aussi peut-être de boucler un peu une une période qui a été très difficile, ça va faire un an maintenant, et de me dire que je l'oublierai pas, ça va faire partie de moi, mais en tout cas, je suis contente de pouvoir le partager avec d'autres mamans de jumeaux jumelles, parce que franchement, on est des mamans extraordinaires.
On est des superwomen. Eh ben, merci beaucoup Astrid, c'était super, je te souhaite une bonne journée.
Merci.
Merci à vous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez lui laisser des petites étoiles. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode des Parents de Multiples.